Paris, roi Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir. Au Mali, le Premier ministre tend la main à l'opposition pour former un gouvernement d'union nationale. En Côte d'Ivoire, le RHDP se réunit pour trouver un nouveau candidat à la présidentielle d'octobre. Début du grand pèlerinage à la Mecque, le plus restreint de l'histoire moderne à cause du coronavirus. Trêve de 3 jours en Afghanistan avant l'ouverture d'un dialogue direct inter-afghan. Également dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal. En Côte d'Ivoire, c'est en présence du président Alassane Ouattara que le bureau politique du RHDP s'est réuni aujourd'hui pour choisir un nouveau candidat pour la présidentielle du 31 octobre prochain. Plus de détails avec Eric Manirakiza.
Il s'agit d'une rencontre ultime présidée par Alassane Ouattara lui-même. Elle fait suite à l'appel de plusieurs ténors du parti au pouvoir qui demandent à M. Ouattara d'obliger un troisième mandat. À l'issue de cette réunion, le président Alassane Ouattara doit formellement annoncer s'il accepte ou pas d'être candidat. En mars dernier, c'est le même organe qui avait choisi Amadou Gon Coulibaly, décédé le 8 juillet. Le PDCI a tenu le week-end dernier ses conventions locales à travers tout le pays. Plus de 9000 délégués ont désigné candidat l'ex-président Henri Konan Bédié, 86 ans. À 3 mois de l'élection présidentielle, une aile du FPI, le Front populaire ivoirien, presse Laurent Gbagbo de se présenter. En liberté conditionnelle à Bruxelles, après son acquittement par la Cour pénale internationale, l'ancien président s'est rendu hier à l'ambassade ivoirienne à Bruxelles pour introduire une demande de passeport ordinaire et en laisser passer en vue de regagner Abidjan.
Au Mali, à part la mise en place du cabinet restreint de 6 ministres, les autres recommandations de la CEDEAO ne sont pas appliquées pour le moment. Les 31 députés qui sont appelés à démissionner ne veulent pas démissionner de l'Assemblée nationale. Du côté du mouvement du 5 juin, on estime que les recommandations de la CEDEAO n'arrangent que le président Ibeka. De Bamako, une correspondance de Kassim Traoré.
Le collectif des 30 députés qui doit démissionner de l'Assemblée nationale n'est pas d'accord avec la décision des chefs d'État de la CEDEAO. Marcelin Guenguéré, député élu à Koro.
On va démissionner pour faire plaisir à qui? Nous sommes députés, nous resterons députés. S'il y a démission, c'est tous les députés qui démissionnent. C'est un arrêt qui nous met ensemble. Soit l'Assemblée est dissoute, soit l'Assemblée fonctionne.
Ce matin, la bourse du travail de Bamako a été prise d'assaut par d'autres députés spoliés, mais qui ne sont pas pris en compte par la CEDEAO. Bassirou Diarra était candidat à Djema.
En réalité, il y a 20 circonscriptions en République du Mali qui sont concernées par les tripatouillages, par les tricheries, par les marouilles, la cour constitutionnelle de l'administration en charge des élections. Et c'est ce que nous voulons dénoncer.
Choguel Kokala Maïga, porte-parole du M5-RFP.
Ces décisions, d'abord, violent totalement la constitution de la République du Mali. Ces décisions ne donnent satisfaction à personne, ne donnent pas satisfaction à l'opposition, ne donnent pas satisfaction aux députés auxquels on dit de démissionner, ne donne pas satisfaction aux députés spoliés, ne donne pas satisfaction aux membres de la Cour qui ont été démis. Ces décisions ont été prises essentiellement pour sauver les soldats Ibeka.
L'ensemble des recommandations de la CEDEAO doivent être appliquées avant le 31 juillet. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Tchad, un homme muni d'un couteau a été tué par des soldats devant le palais présidentiel à N'Djamena, 2 semaines après la mort d'un homme dans les mêmes circonstances. Le président Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis 30 ans, a fait face à plusieurs reprises à des rébellions. En février 2008, des miliciens étaient même arrivés jusqu'aux portes du palais présidentiel avant d'être repoussé. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a reçu à Kinshasa la sœur jumelle de son prédécesseur, Joseph Kabila, et le président de la commission électorale, Jeannette Kabila, est députée et présidente de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale. Depuis le mois de mai, une crise politique divise la coalition regroupant le FCC, les fidèles de Kabila et l'UDPS du président Tshisekedi. Pandémie de coronavirus à Madagascar. Antananarivo connaît une forte augmentation du nombre de cas. La grande île a dépassé la barre symbolique des 10 000 cas, dont 93 morts. La tisane à base d'artémisia, vantée par le président André Rajoelina, n'a pas empêché l'augmentation des cas de contamination. Au Maroc, près de 200 accidents de la route ont fait 15 morts et 313 blessés, dont 19 graves, suite à la décision éclair des autorités de fermer 8 villes, dont Marrakech et Tanger. Cela a provoqué des scènes de chaos avec des embouteillages monstres et les gares prises d'assaut avant la fête musulmane de l'Aïd el-Adha, la fête du sacrifice appelée Tabaski en Afrique de l'Ouest, qui sera célébrée vendredi. Le gouvernement zimbabwéen a signé un accord avec les fermiers blancs expropriés de leurs terres dans les années 2000 afin de lever 3,5 milliards de dollars de fonds pour les dédommager. Au début des années 2000, le gouvernement de Robert Mugabe avait expulsé Manu Militari, quelques 4000 des 4500 grands propriétaires blancs de leurs terres au profit de fermiers noirs.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les fidèles musulmans sélectionnés pour le Hajj ont commencé aujourd'hui le grand pèlerinage de la Mecque et aussi le plus restreint de l'histoire moderne. Les autorités saoudiennes ont mis en place de nombreuses précautions sanitaires pour cause de pandémie de coronavirus. Abdourahman Dia.
Par petits groupes, menés chacun par un guide, les fidèles ont procédé à cette circonvolution autour de la Kaaba, au cœur de la grande mosquée de la Mecque. Des pèlerins portant des masques ont tourné autour de la construction cubique vers laquelle se tournent les musulmans du monde entier pour leurs prières, sous l'œil vigilant de policiers et autres officiels. Les autorités disent que les rites du jour se sont déroulés en un temps record et en toute fluidité. Les pèlerins doivent se rendre ensuite à Mina pour y passer la nuit avant une journée de prière et d'invocation sur le mont Arafat, moment fort du Hajj. Selon Riyad, seul un millier de pèlerins résidant dans le royaume seraient autorisés cette année, mais les médias locaux font état de quelques 10 000, soit une infime fraction des 2,5 millions de fidèles ayant accompli les rites en 2019. Ces restrictions vont aggraver le marasme économique du royaume, estiment les analystes. L'Arabie Saoudite est déjà confrontée à une forte baisse des prix du pétrole due à un effondrement de la demande mondiale et aux retombées de la pandémie.
Avec désormais 16,5 millions de cas et plus de 660 000 morts, la pandémie continue de se propager. Les États-Unis ont déploré 1592 morts en 24 heures, le plus lourd bilan quotidien depuis 2 mois et demi. Le gouvernement de Donald Trump a investi près $1 milliard pour soutenir la fabrication d'un vaccin. En Bosnie, un ministre est mort après avoir contracté le coronavirus. Et en Italie, le Parlement a autorisé la prolongation de l'état d'urgence jusqu'au 15 octobre. À Hong Kong, le port du masque est désormais obligatoire en public et les restaurants n'ont le droit de servir que des plats à emporter. En Afghanistan, le président Ashraf Ghani dit espérer l'ouverture des négociations de paix entre le gouvernement et les talibans dès la semaine prochaine, après avoir donné son aval à une courte trêve décrétée par les insurgés. Jacques Aristide.
La trêve annoncée par les talibans doit durer jusqu'à vendredi afin, selon eux, de permettre aux Afghans de préparer l'Aïd el-Adha, la fête du sacrifice traditionnellement marquée par des réunions familiales. L'annonce de cette deuxième suspension des combats de la part des rebelles en un peu plus de 2 mois est intervenue après que le président afghan a déclaré le même jour espérer le démarrage de pourparlers de paix directs avec eux dans une semaine. Les talibans avaient, quant à eux, dès la semaine dernière, fait savoir qu'ils étaient prêts à entamer des discussions avec le gouvernement de Kaboul dès la fin de l'Aïd. Zalma Khalilzad, envoyée spéciale de Washington en Afghanistan, s'est réjouie de cette avancée. Les États-Unis, qui espèrent une telle percée depuis qu'ils ont signé leur accord historique avec les talibans, ont salué les annonces de cesser le feu et ont appelé à lancer rapidement les pourparlers inter-afghans.
Le gouvernement de Donald Trump a accepté de retirer progressivement les agents fédéraux déployés à Portland à partir de demain. C'est ce qu'a déclaré la gouverneure démocrate de l'État de l'Oregon, Kate Brown. Depuis l'arrivée de ces policiers début juillet, les manifestations antiracistes organisées depuis 2 mois dans cette grande ville du Nord-Ouest se sont beaucoup tendues et des heurts ont eu lieu chaque nuit aux abords du tribunal fédéral. Les États-Unis ont décidé de retirer 11 900 militaires hors d'Allemagne pour les repositionner en partie en Belgique et en Italie. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le chef du Pentagone, Mark Esper. Washington envisage aussi de repositionner des forces en Pologne et dans les États baltes si un accord est trouvé avec ces pays. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco avec John Lyndon.
La Banque africaine de développement, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international ont débloqué plus de 250 millions au bénéfice de Madagascar. Un montant qui, selon Financial Afrique, s'ajoute aux précédentes aides et qui vient crédibiliser la politique intérieure tournée vers le développement à long terme de la Grande Île. Le Forum d'investissement du Bénin aura lieu du 23 au 26 septembre 2020 et se fera en ligne. Les membres du gouvernement, dirigeants d'entreprises, investisseurs et financiers, experts et conseillers se réuniront virtuellement pendant 4 jours autour du thème « Bénin, porte d'entrée au marché de l'Afrique de l'Ouest ». Démocrates et républicains du Congrès américain sont toujours loin d'un accord sur un nouveau plan d'aide pour soutenir la première économie mondiale. Le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, a défendu la proposition qui prévoit une nouvelle enveloppe de 1 000 milliards de dollars. Les démocrates avaient proposé à la Chambre leur propre plan en mai, qui s'élève à 3 000 milliards de dollars. Figure également dans la proposition républicaine un nouveau chèque pour les ménages de 1 200 dollars, des prêts supplémentaires pour les petites et moyennes entreprises.
Et maintenant, la page sport présentée ce soir par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Ourouya Assi ne veut pas jouer au Maroc. Le club guinéen a écrit à la CAF pour que le format de la Coupe de la Confédération soit revu. Nous vous suggérons, pour une meilleure gestion, conformément aux règles de neutralité, de procéder à l'application du format aller-retour ou de choisir un terrain neutre aux 4 équipes en compétition, lit-on dans un courrier adressé à l'instance. Le club guinéen conteste de jouer le Final Four du tournoi au Maroc, qui a toujours 2 clubs en compétition, Hassania Agadi et la Renaissance sportive de Berkane, Pyramide FC d'Égypte. L'autre club qualifié pour les demi-finales avait déjà soulevé cette inquiétude il y a quelques semaines. La CAF a décidé de revenir à un format classique pour les demi-finales de la Ligue des Champions. En Espagne, un joueur du Séville FC a été testé positif au Covid-19, alimentant l'inquiétude autour de la reprise des Coupes d'Europe de football. La semaine prochaine, le club espagnol doit affronter l'AS Rome le 6 août en 8e de finale de la Ligue Europa. Hier, c'est l'attaquant du Real Madrid, Mariano Diaz, qui a été testé positif alors que son équipe doit affronter Manchester City en 8e de finale retour de Ligue des Champions le 7 août en Angleterre. Athlétisme, la Fédération russe a demandé à la Fédération internationale de ne pas se prononcer sur une possible suspension des athlètes russes après le non-paiement d'une amende pour dopage. Dans une lettre adressée au président de World Athletics, Sébastien Coué, la RUSAF a demandé à ce que soit étudiée la possibilité de reporter une telle décision compte tenu de son travail déjà effectué pour lutter contre le dopage. Le conseil de World Athletics doit examiner l'éventualité d'une suspension complète des athlètes russes lors d'une réunion les 29 et 30 juillet. Début juillet, la Fédération internationale a annoncé le gel provisoire du processus de réintégration des athlètes russes sous bannière neutre, car la RUSAF n'a pas payé une amende infligée pour violation des règles antidopage. Basketball, pour finir, LeBron James, pour qui le temps presse avec les Lakers. Gianni Antetokounmpo, jamais aussi fort que cette saison avec Milwaukee. Kawhi Leonard et ses Clippers taillés pour le titre. Ainsi se posent les favoris du championnat NBA qui reprend demain jeudi 30 juillet à Orlando en Floride. Prétendant annoncer au sacre avant la saison, ces 3 équipes ont confirmé leur statut au cours des 5 premiers mois de compétition. dominant les conférences Ouest et Est. Les prochaines semaines diront si les 4 mois et demi d'interruption due au coronavirus ont eu un impact au point de rebattre les cartes pour les nombreux outsiders que sont Toronto, champion en titre, Denver, Utah, Houston, Miami ou encore Oklahoma City.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. Des militaires camerounais et des séparatistes armés accusés d'exactions sur les populations civiles dans les deux régions anglophones. Ces exactions ont fait au moins 8 morts civiles, d'après le rapport du Centre des droits de l'homme pour la démocratie en Afrique, rendu public hier. Les précisions de notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Jultap.
Selon le rapport, les exactions des militaires sur les civils ont été commises les 28 juin et 19 juillet dernier dans les villages Ekona au sud-ouest et Piyin au nord-ouest du Cameroun. Des témoins cités dans le rapport affirment que 2 civils ont été abattus en brousse à Ekona par des éléments du bataillon d'intervention rapide, une force spéciale de l'armée déployée dans la zone. Toujours selon des témoins, dans le village Piyin au nord-ouest, 6 civils ont été tués lors d'une opération militaire contre les séparatistes armés dans ce village. Kevin Akemkwen est responsable des droits de l'homme au Centre des droits de l'homme pour la démocratie en Afrique.
La situation n'a pas évolué depuis la tenue du grand dialogue national parce que nous avons encore des arrestations arbitraires, des exécutions extrajudiciaires. Les gens continuent à être victimes de violences dans plusieurs villages. Chaque jour, il y a quelque chose qui implique des séparatistes, tout comme les militaires.
Parmi les victimes enregistrées le 18 juillet, on cite 2 jeunes qui roulaient en moto entre les localités de Piyin et Santa, non loin de Bamenda, mais aussi 3 femmes et 1 nouveau-né ayant succombé à une grenade jetée contre eux par un militaire à un poste de contrôle. Le rapport mentionne également que des groupes séparatistes armés commettent encore des atrocités sur des populations civiles. Ils ont kidnappé au moins 60 personnes, dont des enfants âgés de 14 à 16 ans, dans le département du Lébialem, au sud-ouest. Et le 20 juillet dernier, les séparatistes ont enlevé 1 enseignant qui se rendait à Bamenda pour superviser les examens officiels. Le Centre des droits humains pour la démocratie en Afrique lance un ultime appel pour que justice soit rendue. Une fois encore, Kevin Akemkwen.
Nous avons recommandé au gouvernement de mener une enquête indépendante et nous sommes prêts à y prendre part s'il le veut.
L'armée camerounaise n'a pas encore réagi aux accusations contenues dans ce nouveau rapport, mais le 5 juillet dernier, sur un plateau de télévision, le porte-parole du ministère de la Défense avait qualifié le promoteur du Centre des droits de l'homme pour la démocratie en Afrique, l'avocat Arbobala, citation, de personnes pas crédibles. Fin de citation. Yaoundé, Emmanuel Jultap, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
En Mauritanie, la commission d'enquête parlementaire a bouclé son travail et remis son rapport au Parlement. Un rapport qui indexe comme premier responsable l'ex-président. À Nouakchott, les détails avec Mohamed Diop.
Après 6 mois de travail, la commission d'enquête parlementaire a soumis au Parlement son rapport final qui fait état de plusieurs dysfonctionnements au niveau de l'appareil administratif de l'État et dans la gestion des sociétés à capitaux publics. Des dysfonctionnements imputés à l'ex-président Mohamed Ouldou Abdelaziz, selon le porte-parole de la commission, le député Lembrabet Benahi.
Nous avons obtenu beaucoup d'informations durant les travaux des responsables mauritaniens convoqués et interrogés par la commission mettent en cause l'ex-président.
L'essentiel de ces dysfonctionnements concerne la passation de marchés et de contrats publics, notamment celle concernant le terminal à conteneurs et hydrocarbures du port de Nouakchott et la société de pêche chinoise Poly Hendon dans le nord du pays. Dans un autre volet, le rapport signale des irrégularités dans la vente de fonciers de l'État. Sur ce point, des proches de l'ex-président sont indexés, note le journaliste et analyste politique Heib Cheikh Sidati.
Selon la synthèse du rapport qui fait plus de 50 pages, la propriété de certains terrains cédés est revenue à une société apparemment à un proche de l'ex-président, Oul Abdel Aziz. La commission a donc recommandé une enquête sur ses attributions et sur d'éventuels actes de corruption et d'abus de pouvoir.
Et face à ces irrégularités, la commission affirme que les corps de contrôle ont manqué à leur mission par dépendance vis-à-vis de l'exécutif, selon Heiber Chersigati.
À
l'époque du président Aziz, comme maintenant d'ailleurs, les corps de contrôle dépendent de l'exécutif. L'inspection générale d'État relève de la primature, donc aucune liberté. Même problématique pour la Cour des comptes et pour l'inspection interne du ministère des Finances. En fait, les corps de contrôle manquent d'indépendance juridique par rapport à l'exécutif.
Reste au Parlement de décider si le contenu du rapport de la commission d'enquête parlementaire nécessite la traduction de l'ex-président devant la Haute Cour de justice, lui qui n'avait pas coopéré à l'enquête. Mohamed Diop pour VOA Afrique, Nouakchott.
Les défenseurs de la liberté d'expression demandent la libération de plusieurs comédiens arrêtés la semaine dernière et accusés de faire la promotion du sectarisme. Des membres du groupe connu sous le nom de Bisonto ont été arrêtés après avoir joué un sketch critiquant les dirigeants ougandais. Reportage à Kampala de Halima Atoumani. Le récit est de Lionel Gaïma.
Les artistes sur les réseaux sociaux utilisent le hashtag « Libérez mon talent » pour appeler le gouvernement ougandais à libérer 4 comédiens du groupe appelé Bisonto. Ils sont toujours en garde à vue depuis leur arrestation vendredi. Ils n'ont pas encore été inculpés, mais la police dit qu'elle mène une enquête sur un cas de sectarisme. Dans leur sketch, des comédiens se moquent du président Yoweri Museveni et d'autres dirigeants.
Dites aux enfants que Yoweri Kaguta Museveni est leur président et ils devraient prier pour lui. Il est arrivé au pouvoir en 1986. Il a dirigé le pays pendant 35 ans et il règne toujours. Alors, ils devraient prier pour lui car il est le chef. Dites aux enfants que le général Eli Tumwine est le chef de la sécurité.
Nicolas Opio, directeur de chapitre 4, une ONG de défense des droits humains, affirme que la liberté d'expression existe pour protéger les discours qui mettent les gens mal à l'aise. Selon lui, les Ougandais devraient ridiculiser leurs dirigeants et, ce faisant, discuter des graves problèmes de gouvernance qui affectent le pays.
Les expressions artistiques, les pamphlets contre les dirigeants sont un moyen pour exprimer leur point de vue. Et je pense que c'est un discours protégé. Au lieu de les arrêter, nous devons nous poser la question de savoir s'ils soulèvent un problème sérieux à travers leur sketch. Et nous devons avoir une discussion honnête sur l'équité, sur le partage du gâteau national.
Le groupe de comédiens a été arrêté dans une station de radio locale. Ofwono Opondo, un porte-parole du gouvernement, accuse les médias de prendre position alors que le pays entre dans un cycle électoral.
Le gouvernement ne va pas rester les bras croisés et regarder les gens tenter de briser l'unité et l'harmonie de la communauté que nous nous sommes battus si dur pour construire au cours des 34 dernières années.
Au début de l'année, le gouvernement a mis en place des nouvelles dispositions pour vérifier les nouvelles chansons, vidéos et scripts de films avant leur sortie. Ces dispositions exigent également que les musiciens, producteurs, promoteurs, cinéastes ou tous les autres artistes s'inscrivent auprès du gouvernement et obtiennent une licence qui peut être révoquée pour une série de violations. Alors, face à cette forme de censure, les artistes se tournent vers les réseaux sociaux pour inciter les gens à s'exprimer. Le chanteur Robert Kyagulanyi, connu sous le nom de Bobby Wine, est lui-même candidat à la présidence.
Je rappelle à tous que nous devons nous lever maintenant, affirmer nos voix et défendre ce qui nous appartient à juste titre. Parce que la liberté d'expression est un droit. Et rappelez-vous qu'aucune création, aucun artiste n'est en sécurité. Nous sommes tous attaqués.
La police affirme qu'elle a en sa possession des dizaines de vidéos qui montrent que les comédiens incarcérés faisait la promotion du sectarisme.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, en Afrique, comment relancer l'économie durement touchée par la pandémie de COVID-19? Les dirigeants de l'Union européenne ont récemment conclu un accord sur un plan de relance après de longues et difficiles négociations. Quelques 750 milliards d'euros seront mobilisés pour aider l'Europe à redynamiser son économie post-Covid. Mais en Afrique, on note une absence de réponse coordonnée. Qu'est-ce qui explique ce manque de réponse à l'échelle régionale ou continentale? L'annulation de la dette est-elle la solution? Rendez-vous jeudi 30 juillet à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Mélania Trump, la première dame des États-Unis, était mannequin avant d'épouser Donald Trump il y a 15 ans. Elle est également une immigrante slovène et une opposante à la cyber-intimidation, aux côtés d'un président qui a été critiqué sur la question de l'immigration ainsi que sur son utilisation de Twitter. Caroline Presutti de la VOA nous propose ce portrait de Mélania Trump avec le récit de Jacques Aristide.
Stand up, Melania. Lève-toi, Melania.
Mélania Trump a grandi en Slovénie, une ancienne république yougoslave de 2 millions d'habitants où vivent toujours ses amis d'enfance, comme Mirjana Jelanci.
Elle était très positive. Elle aimait lire. Elle aimait aussi la couture. Elle transformait des vêtements usés en nouveaux.
Sa passion pour la mode l'a conduite à décrocher son premier emploi de mannequin, ce qui l'a finalement amené aux États-Unis. Michelle Tauber de People Magazine.
Elle est la première immigrante à devenir première dame depuis Louisa, qui était l'épouse de John Quincy Adams au 19e siècle.
Mélania et Donald Trump, de 24 ans, son aîné, se sont rencontrés lors d'une fête et se sont mariés en 2005. Barron Trump est né l'année suivante, le plus jeune fils d'un président en exercice depuis John F. Kennedy Jr. en 1963. Le président Donald Trump.
C'est une mère incroyable, elle aime tellement son fils Byron.
Mélania Trump, première dame des États-Unis.
Il aime son école et ses sports. C'est un grand athlète et je veux juste le garder loin des caméras, des projecteurs pour le moment.
Mélania elle-même évite les regards du public, sauf pour des apparitions occasionnelles, au nom des causes pour lesquelles elle se bat. Sa campagne Be Best fait la promotion du bien-être de l'enfance. En juillet, elle a distribué des déjeuners dans un refuge pour mères célibataires. Be Best décourage également l'intimidation sur les réseaux sociaux.
La technologie actuelle fournit aux gens des boucliers numériques derrière lesquels ils peuvent se cacher et l'anonymat remplace souvent la compassion et la responsabilité, ce qui peut amener des enfants et des adultes à se sentir capables d'être gentils et parfois cruels.
Elle n'a pas évoqué publiquement les tweets de son époux qui souvent cible vertement des opposants. Après des commentaires sur la jeune militante écologiste Greta Thunberg, le bureau de Melania Trump a déclaré ceci. Ce n'est un secret pour personne que le président et la première dame communiquent souvent différemment comme le font la plupart des couples mariés. Parfois, elle est elle-même prise pour cible. Le 4 juillet dernier, des vandales ont mis le feu à la statue érigée en son honneur dans sa Slovénie natale. L'analyse de la journaliste Cocky Roberts il y a 3 ans.
C'est une tâche ardue. C'est plus facile pour les premières dames qui ont joué un rôle similaire auparavant, mais pour quelqu'un qui n'a même jamais été au gouvernement par le passé, c'est un travail très difficile.
This is a tough job. Let us pray.
Prions.
Mélania Trump est catholique, la première dame catholique depuis Jacqueline Kennedy. Elle est la seule première dame américaine à parler 5 langues.
It is my honor.
C'est pour moi un honneur. C'est un honneur et un grand plaisir de me présenter devant vous en tant que première dame des États-Unis.
Même si elle a passé les 4 dernières années loin des caméras, les experts affirment que Mélania Trump s'exprimera davantage alors qu'elle tente de rester la première dame du pays pour encore 4 ans.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Josèle Morissin, Michel Joseph, Lionel Gaïma et Georges Léonard Sagnot. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24h sur 24, un seul site internet, voafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.